Grabación realizada en París, en la casa de Jacques de la Cretelle, diciembre de 1961.
A mon avis, le rôle du romancier est celui qu'il a été de tout temps. Il faut reconstituer la vie, regarder ses semblables et essayer d'arriver à une compréhension du monde. Le romancier doit être, à mon avis, un témoin, et il ne doit même pas prendre parti. Voyez tous les grands romanciers, je vais vous citer des noms français, tels que Flaubert, Balzac, Proust. Eh bien, ils se sont efforcés d'être des mémorialistes et d'étudier les sentiments humains, des sentiments éternels. Vous allez me répondre, il est vrai qu'en ce moment, il y a à travers le monde des problèmes qui sont nouveaux. Mais ces problèmes, il faut les étudier avec fraternité. Il ne faut pas se poser en juge. Il ne faut pas, laissez-moi vous le dire, il ne faut pas s'engager dans la bataille. Il faut être franc, il faut être sincère. Nous avons tous des opinions politiques, mais ce n'est pas juste, à mon avis, de représenter tous les méchants les traits de nos adversaires politiques. Voyez par exemple un homme comme Flaubert, qui à mon avis est un de nos plus grands romanciers. Vous vous rappelez Madame Bovary, n'est-ce pas? Eh bien, dans Madame Bovary, il a fait le procès de l'anticléricalisme en imaginant la figure de Homais. Et d'un autre côté, il a montré l'abbé Bournisien, c'est le curé, le prêtre dans Madame Bovary, sous des traits qui ne sont pas très avantageux. Bref, il est resté objectif. Il faut être sincère dans ses témoignages, mais il faut rester objectif. Voilà, à mon avis, le rôle, et je dirais même davantage, voilà le message que doit donner un romancier.
Et monsieur de la Cretelle, vous venez d'employer le mot message. Quel est votre message, s'il vous plaît?
Oh, mon message, vous me flattez, je viens de parler de grands noms, et je n'ai pas un message aussi important à donner que un Proust, un Flaubert ou un Dostoïevski. Mais le message que tous les romanciers doivent espérer faire écouter à notre époque, c'est la compréhension entre les êtres, une sorte de bonté, de fraternité. Il ne s'agit pas d'écrire des romans édifiants, de montrer qu'il n'y a que la vertu qui est récompensée, mais il faut avoir une sorte de bonté intérieure, de dire voilà ce qu'il arrive que l'on fasse, voilà le certains pécheurs, mais ne les accablons pas. Et entre les peuples, c'est la même chose. Et puis, alors, à mon avis, pour les grands romans sont ceux qui ne prêchent pas, sont ceux qui montrent que l'humanité, les hommes seront toujours conduits par le sentiment de la fatalité. Voilà ce qu'il faut montrer, et ensuite montrer qu'ils doivent être pardonnés même quand ils ont commis des fautes. Voilà le message que je crois utile au monde. Voyez-vous, la grande faute des éducateurs est qu'ils ne se rappellent jamais assez bien qu'ils furent eux-mêmes des enfants. On se souvient de l'admirable définition de Baudelaire à propos de l'art. Le génie, a-t-il écrit, n'est que l'enfance retrouvée à volonté. L'enfance douée maintenant pour s'exprimer d'organes virils, et de l'esprit analytique qui lui permet d'ordonner la somme de matériaux involontairement amassés. En d'autres termes, Cela signifie que rien d'original ne sera créé si l'artiste n'a conservé miraculeusement quelques contacts avec son ingénuité première et si ce n'est elle qui parle le plus fréquemment en lui. Eh bien, de même, on peut prétendre que pour légiférer utilement dans le domaine éducatif, parents ou maîtres devraient avoir la latitude de retourner à cette espèce de vie antérieure que fut leur enfance. Mais hélas, cela ne nous est pas permis. Notre regard, à mesure qu'il gagne en expérience, va au-delà de cet univers. Peu à peu, une sorte de sclérose, faite d'oubli, de paresse, de respect envers de vieux rites, pèse sur nous. Et finalement, ce que l'on appelle une bonne éducation, celle que nous nous appliquons fièrement à donner, se tient à mi-chemin entre la routine et les compromissions de toutes sortes. J'écris ces lignes en face d'un petit visage qui m'est familier et qui me demeure pourtant très éloigné. C'est celui de mon jeune fils. Si je l'interroge savamment, en psychologue averti, comme on dit, le ton devient vite moralisateur et je n'inspire plus confiance. Très souvent aussi, je le vois se dérober sous la timidité ou la crainte. Je le vois garder obstinément son secret. Il faudrait retrouver les clés d'un monde que je n'ai plus. Je sais qu'elles existent. Je me rappelle confusément la figure d'un autre enfant qui, aux heures de solitude ou de révolte, murmurait en lui-même « On ne me comprend pas. Ce qu'il faudrait me dire, c'est... » Mais on ne l'a dit ni à l'un ni à l'autre, et l'autre c'était moi, nous aurons grandi, lui et moi, sous le tendre regard d'une race étrangère. J'entrevois pourtant, comme dans une clarté rétrospective, certains défauts du code. Ainsi, on oublie trop que le meilleur procédé en matière d'éducation est certainement celui qui se hâte de souligner et de mettre en valeur une bonne action ou un effort fait spontanément par l'enfant. Comment ? Ce n'est pas plus difficile que ça. C'est une chose que j'ai en moi, que je sais faire. Autant de petites découvertes qui stimulent en lui l'amour-propre et ouvrent la voie à une émulation salutaire. Regardez plutôt l'enfant à qui l'on a décerné une louange méritée. D'abord, il rougit de plaisir et baisse la tête. Puis, il regarde droit devant lui, comme s'il voulait se surpasser. D'un coup d'aile, il veut se ranger du bon côté. Maintenant, voyez l'autre, celui dont on s'obstine à montrer les fautes. Muet, le front buté, il s'écarte d'une partie impossible. Et souvent par bravade, il prendra le contre-pied de tout ce qu'on veut lui inculquer. Il s'agit donc bien moins d'être faible ou d'être fort que d'être sensible et de se livrer à un incessant travail d'approche et d'observation où les principes pédagogiques n'ont pas grand-chose à voir. Il pourrait intervenir utilement si les sujets humains étaient comme des poulains au dressage, dont un vieux palefrenier finit à force d'expérience par connaître tous les tours. Mais l'humanité est plus variée. Et d'ailleurs, les maîtres, enfermés bien souvent dans leur système et leurs méthodes bien éprouvées, jugent la plupart du temps indignes d'eux ces exercices inanimavili. Bon, me dira-t-on, il en fut de tout temps ainsi, et cela n'a pas empêché les esprits studieux de s'instruire, ni les génies de se révéler. Soit, mais ce raisonnement est celui qui aboutit à la routine et aux compromissions dont je parlais plus haut. Il est un autre raisonnement que je me tiens souvent pour me rassurer, c'est que l'isolement et cette incompréhension où nous grandissons fatalement aide notre personnalité à se former. C'est le levain qui permet à chaque génération de s'affranchir des tutelles et, qui sait, de faire un pas en avant. Cette petite figure, celle de mon fils, qui me juge en silence ou qui se dérobe, amasse peut-être ses matériaux et peut-être en tirera-t-elle plus de profit que de mon enseignement.